Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 6 Dey 1399 du calendrier iranien, 26 décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le gouvernement iranien tente de rendre les sanctions américaines inefficaces, a déclaré le président Hassan Rouhani. Les États-Unis ont bloqué l'achat du vaccin par l'Iran, a déclaré le président Hassan Rouhani. L'autorité autonome palestinienne exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir contre la violence des colons israéliens. Et Damas met en garde le régime israélien pour ses attaques contre le territoire syrien. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a critiqué les hostilités des États-Unis qui mettent des obstacles devant l'achat du vaccin de coronavirus pour le peuple iranien. Lors d'une réunion du Comité national de la lutte contre le coronavirus, le président Rouhani a décrit les efforts acharnés de son gouvernement en vue d'acheter des vaccins du COVID-19 sur le marché international. Les efforts qui sont bloqués par les hostilités inhumaines de la Maison-Blanche, a-t-il souligné. Les hostilités des États-Unis ne se limitent pas seulement dans le domaine des vaccins, des médicaments ou de la nourriture, mais les Américains exercent cette méchanceté et cette dépravation dans le cas de tout ce que nous voulons acheter à l'étranger, a déclaré le président Rouhani. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a appelé le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à assumer ses responsabilités et à mettre fin à la violence des colons israéliens, alors que les colons extrémistes poursuivent leurs actes de vandalisme et de violence, connus sous le nom d'attaque à prix coûtant contre les Palestiniens et leurs propriétés. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité autonome palestinienne a annoncé que les actes de violence commis par les colons israéliens avaient enregistré une forte augmentation la semaine dernière. Et il ne vise pas seulement à terroriser les Palestiniens sans défense en Cisjordanie occupée, mais cherche également à faire avancer l'expansionnisme du régime sioniste aux dépens de l'expropriation des terres palestiniennes. Le communiqué a noté que les attaques israéliennes contre les propriétés publiques et privées palestiniennes ont eu lieu principalement au sud, à l'est et à l'ouest de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé la dernière attaque israélienne contre le territoire syrien, affirmant que de tels actes d'agression ne seraient pas sans conséquences. Ces remarques ont été faites dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité de l'ONU en réaction aux frappes aériennes israéliennes de vendredi dans la campagne de Hama. La lettre soulignait que le soutien continu des États-Unis et de certains membres du Conseil de sécurité a encouragé Israël à poursuivre son approche agressive. Damas a condamné les attaques israéliennes comme une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il a également appelé le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité de prévenir les attaques israéliennes. Pendant ce temps, la Russie a critiqué les frappes aériennes d'Israël contre la Syrie, avertissant que de telles actions déstabilisent davantage la situation régionale déjà compliquée. Le bilan d'une récente attaque en Éthiopie est passé à 222 personnes, a déclaré une volontaire de la Croix-Rouge dans ce pays africain. L'attaque a eu lieu dans le village de Bekouji, dans le comté de Boulen, mais la commission des droits de l'homme nommée par l'État éthiopien a initialement estimé le nombre de personnes tuées à plus de 100 personnes. Le massacre commis par des hommes armés non identifiés a marqué la dernière attaque meurtrière dans une zone en proie à la violence ethnique. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a qualifié l'agression de massacre et a déployé des troupes fédérales dans la région le lendemain. Un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni estime que la Chine dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde en 2028, après avoir surpassé son rival pendant la pandémie mondiale de coronavirus. Le Centre pour des recherches économiques et commerciales a fait cette prévision dans un rapport annuel publié samedi, affirmant que la valeur de l'économie chinoise devrait dépasser celle des États-Unis d'ici 2028, 5 ans plus tôt que prévu en raison des reprises contrastées de les deux pays de la pandémie. Le rapport a salué la gestion habile de la pandémie par la Chine avec son strict verrouillage et a déclaré dans son classement annuel les perspectives de croissance de 193 pays que la Chine avait rebondi rapidement des effets du COVID-19 et augmenterait de 2% en 2020. Des enquêteurs ont trouvé des restes humains à proximité de l'explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville tôt le matin de Noël, ont révélé deux responsables aux médias. Une caravane stationnée dans le centre-ville de Nashville a explosé vendredi quelques instants après qu'un message vocal préenregistré émanant du véhicule a averti de la présence d'une bombe dans ce que la police de la capitale du Tennessee a qualifié d'acte intentionnel. 3 personnes ont été blessées dans cette explosion. John Cooper, le maire de Nashville, a ordonné l'imposition d'un couvre-feu autour du site de l'explosion pour tout le week-end, alors que le FBI a dépêché des enquêteurs sur place. Aucune explication n'a été donnée sur le possible mobile de cette explosion. L'acte n'a pas été revendiqué. L'explosion s'est produite quelques instants seulement après que des policiers ont répondu à un appel d'urgence portant sur des coups de feu dans la zone. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous vous présenterons notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani a blâmé les États-Unis pour avoir bloqué l'importation de presque tout dans le pays, y compris les médicaments et le vaccin COVID-19, affirmant cependant que son gouvernement faisait de son mieux pour rendre les sanctions américaines illégales inefficaces. Il a fait ses remarques lors d'une réunion du groupe de travail national pour la lutte contre le coronavirus à Téhéran, samedi, quelques jours après que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, ait conseillé à la nation iranienne et aux responsables du pays de se concentrer sur la neutralisation des sanctions au lieu d'essayer d'obtenir leur suppression. Le guide suprême de la révolution islamique a appelé à rendre les sanctions inefficaces. Mais à chaque instant du processus d'exportation et d'achat de marchandises à l'étranger, nous sommes heurtés à de grandes difficultés. L'Iran fait l'objet d'une série de sanctions imposées par les États-Unis depuis 2018, lorsque le président Donald Trump a retiré Washington de l'accord de 2015 sur le nucléaire civil iranien. Les États-Unis ont déclenché la soi-disant campagne de pression maximale et ont ciblé la nation iranienne avec les mesures restrictives les plus dures de tous les temps. Ailleurs, dans ses commentaires, le président Rouhani a déclaré que l'Iran cherchait à produire un vaccin national contre l'épidémie tout en essayant en même temps d'acheter un vaccin étranger. Certainement, les Américains ont fait une brèche dans cette voie. Nous voyons les effets de la méchanceté et de la dépravation américaine, non seulement concernant l'achat de vaccins, mais tout ce que nous voulons acheter ou imposer, a-t-il ajouté. Le président iranien a également souligné les efforts de l'Iran pour acheter les vaccins COVID-19 à COVAX, un groupe multi-agences dédié à assurer un accès équitable aux vaccins pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous avons préparé les fonds nécessaires pour acheter les vaccins, mais ils ont dit que pour le paiement, ils ont de nouveau annoncé que l'argent doit d'abord être transféré à une banque américaine. Comment pouvons-nous vous faire confiance lorsque vous êtes connu pour vol, a-t-il déclaré. Le président Rouhani a en outre assuré que le gouvernement iranien a pris les mesures nécessaires pour fournir des fonds pour l'achat et le transfert des vaccins COVID-19, en disant « Pourtant, où il y a un vaccin de confiance, nous le fournirons sûrement et à cet égard, nous avons les moyens pour le transfert et la maintenance. » Le ministère iranien de la Santé ne permettra pas aux Iraniens d'être utilisés pour tester un vaccin invalide, a-t-il souligné. Bien que les sanctions aient entravé l'importation de tout dans le pays, y compris les médicaments et les vaccins, nous allons certainement surmonter le problème et rendre les sanctions inefficaces, a réitéré le président Rouhani.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Ces derniers jours, les autorités américaines, dont le président sortant Donald Trump, ont eu des accusations sans fondement contre la République islamique d'Iran au sujet de cette attaque menée contre l'ambassade US à Bagdad. Y réagissant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Trump ne pouvait pas détourner l'attention de ces échecs catastrophiques en mettant ses propres citoyens en danger à l'étranger. Il y a eu également cette prise de position du ministère iranien des Affaires étrangères de la part du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a réagi à ces accusations sans fondement remises en avant ces derniers jours par les autorités américaines contre l'Iran, tout en rejetant les accusations sans fondement et montées de toutes pièces de Donald Trump et du commandement central de l'armée américaine dans la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, les attaques contre des locaux diplomatiques et résidentiels sont inadmissibles dans la politique étrangère de Téhéran. » Dans le contexte actuel, la République islamique d'Iran tient le gouvernement américain responsable des conséquences de toute action imprudente, a prévenu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour ce débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Habib Tava. Monsieur Tava, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de me recevoir.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un autre analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui est en ligne avec moi pour cette émission. Je procède à une rectification. C'est un géopoliticien et belge des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à mon collègue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
C'est un plaisir partagé. Luc Michel, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Première question, comment évaluez-vous ces récentes et si vous voulez accusations montées de toutes pièces des autorités américaines, très particulièrement du président sortant américain Donald Trump contre l'Iran, s'il vous plaît?
Donald Trump est égal à lui-même. Il a, depuis 4 années, semé le chaos dans les institutions internationales, il a semé le chaos dans l'ordre géopolitique international, et on a l'impression, mais je pense que c'est plus qu'une impression, qu'il essaye de créer, moi j'appelle ça des mines géopolitiques, il essaye de miner le terrain pour que son successeur, évidemment, se voie la tâche compliquée. Les États-Unis ont échoué en Irak et ils ne veulent pas se résoudre à cela. Et tout est bon, évidemment, pour que les États-Unis soient maintenus dans cette voie sans issue dans laquelle ils se sont engagés avec Trump.
Pierre Dortiguier, venez d'entendre les explications de Luc Michel. Votre analyse, s'il vous plaît. Nous avons perdu, malheureusement, notre liaison avec Toulouse. Excusez-moi, notre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est pas M. Dortiguier. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je confonds aujourd'hui, en fait, M. Dortiguier avec Luc Michel ou bien avec l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est M. Habib Tavar. On va partir tout de suite à Paris pour le rejoindre. M. Tavar, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, d'abord, je souhaite un joyeux Noël, puisque c'est aujourd'hui Noël, à tous les gens qui s'estimeraient concernés. Et je rapproche ce fait du fait que le président Trump veut évidemment faire un effet d'annonce le jour de Noël, qui pour les Américains est très important. Et dans quelques heures, ils vont se réveiller aux États-Unis. Et donc, il veut jouer aux gentils qui protègent contre les méchants iraniens, etc., etc. Il y a un rapport de cause à effet. Il y a le fait aussi que au Liban, Liban, l'homme des États-Unis, Hariri, a essayé de former un gouvernement en annonçant qu'il serait formé avant Noël et il n'a pas réussi non plus. Donc ils sont un peu embêtés, ils sont coincés. Ils ont envoyé des B-52 au Proche-Orient pour faire peur à l'Iran. Ils ont fait rentrer près du Golfe Persique ou dans le Golfe Persique porte-avions. Ils ont fait rentrer un sous-marin nucléaire. Un tas de menaces. Et tout ça converge pour dire, voilà, moi, je vous protège. Le jour de Noël, c'est le jour qui est le plus important pour les Américains, etc. Et je suis là. Je suis là et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc le fait qu'il y ait eu une attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad tombe tout à fait à point pour permettre aux Américains, aux CENTCOM, etc. d'aboyer. Ça, c'est un premier point. Un second point que l'on pourrait ajouter sur cette histoire-là, c'est le fait que aujourd'hui les Américains sont un peu dans une impasse, parce que je doute personnellement qu'il y ait de grandes modifications entre la politique américaine de Biden ou de Trump. En réalité, c'est l'État profond qui gère dans les deux cas, et les deux veulent à la fois instrumentaliser l'Iran en l'utilisant comme un méchant, et deuxièmement le mettre à genoux. Alors ils ont assassiné, comme vous le savez, le grand spécialiste de recherche nucléaire iranien. Il y a un an, ils ont tué le général Soleimani. Et donc ils essayent d'affaiblir, de déstabiliser l'Iran, qui, je crois, tient bon la route. Et puis je n'ai pas une grande inquiétude sur ce qui va arriver.
Et les Américains sont embêtés, pour reprendre, Luc Michel, l'expression de Habib Tava. Ils sont coincés, ils sont dans l'impasse également sur le plan de la politique intérieure. C'est pourquoi ils avancent en fait de telles accusations contre l'Iran. Luc Michel, partant de ce principe, peut-on dire que les États-Unis en fait se livrent actuellement à une politique de la fuite en avant, en avançant de telles accusations contre l'Iran?
C'est exactement ça. On a, et c'est pas une impression, vis-à-vis de l'Iran, c'est une hystérie réellement qui est menée par les États-Unis. Ce n'est plus une politique qui est rationnelle, et à cela s'ajoute l'irrationalité qui est dans le caractère de Trump lui-même. On a quitté, avec Obama, on pouvait faire tous les reproches qu'on voulait, mais il y avait une certaine logique dans ce qui se passait. La logique, c'était celle encore du grand échiquier géopolitique de Brzezinski. Avec Trump, on est arrivé dans une géopolitique, j'ai appelé ça la géopolitique des tables de poker. On tente des coups de poker géopolitiques, on tente des coups de bluff, et on essaye de faire une série de banco. Ça marche, ça ne marche pas. Généralement, ça a très peu marché, si vous suivez le bilan de Trump. Et évidemment, les États-Unis, avec ça, sont dans une impasse. Ils se sont fâchés avec leur propre allié. Ils se sont fâchés, évidemment, avec à peu près une très grande partie de la planète. Et donc, au Proche-Orient en particulier, ils sont engagés, ils sont dans un échec en Irak, ils sont dans un échec en Syrie. Et donc, ça explique un peu cette fuite en avant. Je vous le répète également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la volonté de Trump de créer l'irréversible.
Luc Michel,
dans un conflit dont on ne sort pas.
Luc Michel, excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que les Américains se sont fâchés également avec leurs propres alliés. De qui les alliés parlez-vous exactement?
Écoutez, il est bien certain qu'il y a une fracture actuellement au sein du bloc américano-atlantique. Ça a toujours existé, la contradiction de l'Alliance Atlantique, c'était que les alliés géopolitiques principaux, les pays de l'OTAN, c'était l'adversaire économique principal, l'Union européenne. Ce conflit, cette guerre commerciale, elle n'est pas née avec Trump. Elle est née dans le début des années 1980. Elle s'est doublée d'une guerre financière entre l'euro et le dollar. Jusque-là, on s'accommodait de cela, en Afrique particulièrement ou au Proche-Orient. Et puis Trump a exacerbé les choses, il a déclaré que la guerre commerciale c'était facile et facile à gagner, avec cette espèce de forfanterie qui lui est habituelle. Et aujourd'hui, il y a une série de fractures. Il y a une fracture en Afrique, par exemple, entre les États-Unis et la France, alors que leur alliance est indispensable à l'OTAN, au Proche-Orient. Il y a une fracture entre les Turcs et les Français. Il y a toute une série de choses. Et maintenant, on assiste en plus à cette espèce de... Moi, je ne vois pas d'un grand avenir. Il y a cet axe qu'on a créé, rendant apparent ce qui était caché jusque-là, l'alliance honteuse des monarchies réactionnaires arabes avec Israël. Une fois qu'elle est officielle, elle a apporté également des césures. Il faut voir, par exemple, le cas du Maroc. Le roi du Maroc a cru qu'il faisait une bonne affaire en obtenant, grâce à sa reconnaissance d'Israël, le Sahara espagnol. Mais la société marocaine est profondément fracturée là-dessus. Moi qui suis la presse régulièrement marocaine, je vois pour la première fois des piliers du système marocain critiquer le roi. Et donc, ce système-là, ça ressort. La politique internationale de Trump, elle ressemble à un champ de ruines. Il y a le champ de ruines avec les adversaires, ça c'est logique, mais encore que l'aggravation de la politique anti-russe ou anti-chinoise, elle n'a pas conduit à un renforcement des positions américaines, mais au contraire de ses adversaires, et maintenant il y a ce grand froid qui existe au milieu du bloc, notamment à l'OTAN, mais pas qu'à l'OTAN. Il y a également un froid qui existe avec les alliés africains de Washington. Et quand on suit cette affaire, tout cela ne répond plus à aucune cohérence. Il n'y a pas une doctrine géopolitique comme il en existait avant. Au moins, on savait ce qu'Obama allait faire. On savait ce que les réseaux qui sont derrière lui allaient faire. Actuellement, ce n'est plus le cas.
Mmh. Happy Betava, les Américains qui sont embêtés et coincés, pour reprendre votre propre expression, dans l'état actuel des choses, ont envoyé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, leur B-52 dans la région. Ils ont envoyé également leur sous-marin nucléaire de l'USS Georgia dans le Golfe Persique, avec pour objectif d'intimider l'Iran. Mais l'Iran ne s'est pas laissé intimider par de telles en fait de menaces. Loin de là, l'Iran tient pour responsable les États-Unis des conséquences de toute provocation et de toute aventure et de tout aventurisme militaire dans la région Habib-e-Dava.
Oui, c'est tout à fait exact. Et en particulier, on oublie de le relever, mais par exemple, après l'assassinat du général Soleimani, l'Iran, pour la première fois, a bombardé la base d'Ain al-Assad en Irak, où a tué probablement 80 Américains que, pour noyer le poisson, on a dit qu'ils étaient morts en Allemagne, aux États-Unis, s'étaient cassé la jambe, enfin, on a... arranger les chiffres. Mais effectivement, il y a eu 80 morts américains dans la base d'Ain al-Assad. Et c'était la première fois qu'un pays attaqué directement, parce que l'assassinat de Soleimani était une attaque délibérée des Américains contre l'État iranien, puisque c'est quand même un représentant de l'État iranien qui était dans un pays étranger, c'est-à-dire en Irak, et qui a été assassiné de façon assez ignoble, finalement. Et en faisant cet acte, les Iraniens ont prouvé quoi? Ont prouvé, vous nous tapez, nous allons vous taper, nous vous taperons aussi fort que vous l'avez fait. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Quand, par exemple, il y a eu la guerre du Vietnam, les Vietnamiens n'ont pas osé aller s'attaquer aux Américains, les Nord-Vietnamiens, non. Et dans d'autres guerres où les États-Unis sont intervenus, en général, ils tapaient et puis... ils n'étaient pas touchés directement, leurs alliés peut-être, leurs hommes de main certainement, mais pas directement les États-Unis. Or là, l'Iran a frappé directement une base américaine en tuant des Américains. Et ça, ça a été une première. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les Américains hésitent à frapper l'Iran avec les armes dont vous avez parlé. Et on a parlé aussi du porte-avions Nimitz. Bon, tout ça... est venu pour faire de l'effet, pour faire du bluff. Les Américains sont souvent des bullshitters. c'est-à-dire c'est des gens qui parlent fort mais n'agissent pas. Donc ils savent très bien que si tape l'Iran, il y aura des conséquences. Mmh. Et je pense que même pour ce qui concerne l'assassinat de l'universitaire iranien dont j'ai oublié le nom, je pense que même dans ce cas, en temps et lieu, l'Iran prendra sa revanche. Mmh. Et les Américains savent ça. Ils savent que c'est la culture iranienne. Ce n'est pas une culture de gens superficiels. C'est des gens qui calculent, qui réfléchissent, qui prennent leur temps et qui agissent quand il faut. Mmh. D'où l'effet médiatique de l'Iran, pardon, des États-Unis face à la résilience, la résistance des Iraniens qui prennent leur temps et qui calculent. Et dans ce sens, je suis relativement optimiste pour l'Iran. Mmh. Voilà.
Luc Michel, Habib Tava vient de faire allusion à l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, de savant nucléaire iranien. Il a également fait allusion à cette riposte de l'Iran, l'Iran qui a attaqué la base d'Aïn al-Assad en Irak, en riposte à l'assassinat lâche du général de Qassem Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a été assassiné lors d'une frappe à l'aéroport de Bagdad, lors d'une frappe terroriste à l'aéroport de Bagdad, alors qu'il était en mission officielle. L'Iran a eu cette riposte d'une manière tout à fait ouverte. L'Iran a attaqué la base d'Aïn al-Assad et là, en fait, dit ouvertement et clairement. Et maintenant, dans l'état actuel des choses, les autorités américaines avancent des accusations contre Téhéran, comme quoi cette récente attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad était l'œuvre de Téhéran. Luc Michel, si l'Iran décide un jour d'attaquer la base US à Bagdad, il va en fait de le faire ouvertement, et les Américains le sachent très bien. Alors pourquoi les États-Unis en fait cherchent à fabriquer de telles accusations montées de toutes pièces, Luc Michel, d'après vous?
Il y a deux phénomènes parallèles qui ne sont pas liés entre eux, mais qui conduisent à ça. C'est que l'administration Trump, elle sous-estime depuis le début l'Iran. On a un peu l'impression que le regard qu'on a, c'est l'Iran d'il y a 15 ou 20 ans, c'est comme ça qu'il est vu à Washington. On croit que c'est une petite puissance qui n'a que des alliés de faible niveau, par exemple les Syriens ou les Hezbollah. Ils n'ont pas compris que l'Iran, c'était la troisième capitale émergente au sein de l'unification de l'Eurasie et qui a un axe Moscou-Pékin-Washington. Ça n'a pas été pris en compte. La deuxième chose, c'est l'incompréhension de la géopolitique par l'administration Trump, qui explique d'ailleurs beaucoup de problèmes de celle-ci, avec par exemple John Bolton, qui s'est fâché avec Trump et avec d'autres. Jusque-là, la géopolitique, c'était important, c'est ce qui guidait les projets américains, ce qu'on a appelé les projets pour des siècles américains, c'est ce qui guidait les États-Unis depuis le 19e siècle. On croit souvent que la géopolitique, elle a eu la réputation d'être une science allemande. En fait, c'est une science qui est née aux États-Unis, en Allemagne et en France. Depuis Trump, on a l'impression que cette vision n'est plus là. Brzezinski était le conseiller géopolitique d'Obama. Il n'y a pas d'équivalent de l'autre côté. On a un peu l'impression donc que la géopolitique qui éclairait la politique américaine et qui éclairait le chemin, on a un peu l'impression ici que Trump, il marche sur le chemin en aveu. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai appelé la liquidisation de l'administration Trump, c'est-à-dire que des rapports privilégiés existent entre Trump et le Likoud, entre la famille Kouchner, le gendre de Trump, et Netanyahou. Il faut savoir que Kouchner, c'est un des hommes qui décide de la politique proche-orientale. Il y a des liens très proches entre Mike Pompeo et le Likoud également. Et tout cela conduit à une radicalisation vis-à-vis de l'Iran. Vous savez que l'Iran, c'est l'obsession de Netanyahou. Rappelons-nous les shows avec des faux graphiques, etc., aux Nations Unies. Et c'est ce qui se passe maintenant. Tant que c'était Israël, je dirais, qui faisait son show, ça n'avait pas de conséquences immenses. À partir du moment où les Américains marchent là-dedans, ça marche.
Merci aussi. Beaucoup.
Il y a des extrémistes en Israël qui essayent de pousser Trump à un geste fatal avant qu'il s'en aille. Ils savent très bien que les rapports avec Biden, même si Biden est un sioniste, si Sullivan et Blinken, qui vont diriger sa propagande, sont des pro-sionistes, ils savent très bien qu'ils n'auront plus quelqu'un aussi en phase avec eux que Donald Trump, et d'où la tentation. On a même parlé de projet de déclencher une guerre contre l'Iran avant le départ de Trump. Ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, en sachant que les gens qui constituent l'administration Trump, ce sont des jusqu'au bout. Il y a Trump, évidemment. Vous avez vu, si vous voulez bien me laisser encore une phrase, vous avez vu que Trump est en train d'amnistier à peu près tout son entourage. Ça prouve que tous les gens autour de lui ont des choses à se reprocher, vont faire face à la justice. Et donc, il y a une tentation à créer l'irréversible pour ne pas répondre à ce qui se passe. Pompeo, par exemple, qui a trahi qui est l'ancien chef de la CIA d'Hillary Clinton et d'Obama, qui a trahi les réseaux d'Obama pour Trump, il sait que sa carrière est terminée. Ça n'aide pas tous ces gens à faire une politique de transition qui soit paisible ou pas. D'où la tentation, je vous l'ai expliqué, de laisser de véritables mines géopolitiques au Proche-Orient. Il y a la même théorie, il y a la même application qui se fait actuellement en Afrique.
Habib Betava, une dernière question, si j'ai bien suivi Luc Michel, il dit que voilà, on peut voir en fait de la piste israélienne dans ces récentes menaces américaines contre l'Iran, une piste qui a comme objectif en fait de pousser Donald Trump à déclencher une guerre contre l'Iran. C'est votre avis également?
Oui, c'est un peu aussi l'avis de Scott Ritter, qui a été inspecteur des Nations Unies, un Américain en Irak, et qui dit aussi qu'il y a une volonté de pousser à l'affrontement avec l'Iran. Mais je pense que l'État profond américain veut menacer l'Iran, éventuellement bombarder, mais ne voudra pas détruire le pouvoir et la réalité de l'Iran. Ce n'est pas, me semble-t-il, dans ses objectifs, et j'en donne pour preuve plusieurs votes qui ont eu lieu par les chambres aux États-Unis il y a un ou deux ans, interdisant à Trump de déclencher une guerre avec l'Iran sans son aval. Il y a donc une certaine sagesse chez les Américains dans l'apparente folie qu'ils manifestent. Je crois qu'ils ne veulent pas démolir l'Iran. Ils veulent peut-être l'embêter, le perturber, frapper des hommes importants chez lui, comme nous l'avons vu. Mais je pense que c'est une gesticulation, parce que tous les États du Golfe qui se sont ralliés à Israël récemment se sont faits parce que les Américains ont utilisé l'Iran comme un épouvantail pour ramener à eux tous ces États qui ont trahi la cause palestinienne du fait même de cette histoire-là.
Merci.
Donc la situation géopolitique est assez complexe et équilibrée.
Habib Betava, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi dans cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'invasion sioniste au Maghreb, la guerre inévitable. Selon le journal en ligne Araya Al-Yaoum, suite aux provocations américaines sionistes en Asie occidentale et leurs tentatives visant à pousser le Maroc à normaliser ses relations avec le régime sioniste, les États-Unis cherchent aujourd'hui à provoquer une guerre entre les pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Ils exploiteraient les différents du territoire contesté du Sahara occidental. Selon Abdelbari Atfan, ceux qui suivent les agissements sionistes américains au Maghreb et les questions marginales liées à la normalisation des relations avec l'entité sioniste dans toutes ses dimensions ont la forte impression qu'il existe déjà un plan bien calculé pour séparer le Maroc des pays arabes et islamiques et secouer la stabilité et la sécurité dans ce pays. La célébration médiatique à Rabat, dirigée par Jared Kushner, le gendre de Trump, et son voyage à bord d'un avion de la compagnie israélienne El Al, à la tête d'une délégation accompagnée par Mer Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale du régime d'Israël, était un acte provocateur, non seulement contre nous, mais aussi contre de toute la nation arabe et musulmane du Maghreb, a indiqué Abdelbari Atfan. Il a ajouté que le Maroc, c'est l'un des principaux pays amis de la Palestine soutenant sa cause et que des dizaines de millions de Marocains étaient prêts à participer à la guerre pour la libération de la Palestine. Nous avons précédemment mis en garde contre les menaces cachées de ce plan pour le Maroc et l'ensemble des pays du Maghreb car sur la base de nos expériences, nous savons très bien comment les Américains violent les traités, comment ils abandonnent leurs alliés. Nous avons l'expérience de l'occupation de l'Irak et qui a été de soumis aux inspections de l'ONU et à ses résolutions, a poursuivi Atfan. La célébration de la normalisation factice prendra fin dans quelques jours et la vérité éclatera. Les promesses des États-Unis n'ont pas fait de l'Égypte un pays riche et les accords de Wadi Araba n'ont pas pu faire de la Jordanie un pays prospère. Ces derniers jours ont été marqués par deux événements majeurs qui confirment notre profonde inquiétude quant à ceux qui pourraient créer des menaces dans la région du Maghreb. Le premier, c'est le discours du président de l'Assemblée nationale du peuple algérien, qui a évoqué les actions parlementaires pour restituer le droit du peuple de Sahraoui à l'autodétermination. L'Algérie soutient ce droit et le considère comme irrévocable et non négociable. Atfan ajoute que la question du Sahara occidental était une question de colonisation car il n'existe aucun lien ici historique ou juridique entre le peuple sahraoui et les occupants américains. Le second événement, c'est la publication d'un communiqué par l'armée mauritanienne annonçant que des forces marocaines avaient tiré sur une de ses patrouilles dans la zone frontalière nord près du Sahara occidental. Les deux événements susmentionnés nous amènent à conclure que les grands incendies commencent par de petites étincelles. Les guerres entre les nations frères commencent de la même manière. Israéliens et Américains tentent de semer les graines de la guerre dans les pays du Maghreb. La Russie prête à envisager une assistance militaire pour la Centrafrique en cas de demande. À l'approche des élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, pays déjà en proie à des tensions, Moscou pourrait envoyer une assistance militaire aux autorités légitimes à leur demande, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou se dit prêt à examiner la demande d'assistance militaire des autorités légitimes de la République centrafricaine
centrafricaine si elle est conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré à l'agence Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. S'il y a une telle demande des autorités légitimes, d'ailleurs, elle peut être adressée non seulement à nous, mais à d'autres partenaires et amis, a répondu M. Bogdanov à la question de savoir si la Russie enverra un contingent militaire en Centrafrique. En outre, il a souligné l'importance de la conformité de la demande des autorités aux exigences du Conseil de sécurité de l'ONU, car sur certaines questions, il est nécessaire d'informer le Conseil au moins sous forme de notification. Au moins 7 militaires nigériens ont été tués et 3 autres blessés, dont un grièvement, dans une attaque terroriste menée près de Taroun, dans la région de Tillea Berry, située dans l'ouest du pays, proche du Mali, a annoncé mercredi le ministère de la Défense. Une patrouille de l'armée est tombée dans une embuscade étendue par des terroristes armés circulant sur des motos et à bord de véhicules dans le secteur de Taroun, une localité située à 57 km au nord-est. Doualam a-t-il précisé dans un communiqué cité par la chaîne publique Télésahel. Au cours de cette attaque, 7 terroristes ont été également tués par l'armée qui a réussi à mettre en déroute les assaillants, a-t-on indiqué de même source. Le ministre de la Défense nigérien a saisi cette opportunité pour adresser ses encouragements aux forces de défense et de sécurité dans la mission de défense de l'intégrité territoriale et saluer la coopération des forces partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'armée nigérienne. L'accord de libre-échange est la seule voie vers le développement durable selon un haut responsable de la CEAR. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, doit être rendu effectif car il est la seule voie pour le continent vers le développement durable, a fait valoir jeudi un haut responsable de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEAR. David Luc, coordinateur du Centre de politique commerciale africaine de la CEA, a tenu ses propos lors d'un webinaire sur la couverture effective de la ZLECAR. Ne sous-estimons pas l'importance de l'initiative ZLECAR, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de plan B. Nous devons veiller à ce que la zone de libre-échange continentale africaine fonctionne, a-t-il souligné encore. Toutes les sociétés de l'histoire n'ont pu se développer que lorsque leur capacité de production, leur productivité, leur compétitivité ont été menées à l'expansion sous l'impulsion du commerce, et l'Afrique ne peut pas faire exception à cette règle, a-t-il conclu. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel sous la menace d'une crise alimentaire majeure en 2021, selon une ONG. Avec 16,7 millions de personnes en besoin d'assistance alimentaire immédiate, dont 9,2 millions au Nigeria, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest doivent se préparer à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure en 2021, a prévenu jeudi l'ONG Club Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, Laurent Bossard, a déclaré que la faim et la violence sont deux éléments d'une même équation et que de 2021 sera probablement pire. L'insécurité aggrave gravement la situation alimentaire dans la région, entraînant un grand nombre de personnes déplacées, perturbant les activités agricoles et enracinant l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë dans le contexte du changement climatique, a fait remarquer l'ONG sur son site internet. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre émission consacrée à l'actualité africaine s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.